Monique Kerouac, c'est à vous. Handicap et intelligence artificielle se nourrissent-ils mutuellement? Vous nous avez déjà donné la réponse, mais je sens que vous avez plein de choses à nous dire là-dessus.
Oui, oui. En fait, c'est Muriel Maxeing et Jean-Noël Nikiema qui ont rédigé cet article. L'une est à l'Université de Montréal comme professeure et l'autre aussi, mais Madame Muriel Maxeing est en santé publique et Monsieur Nikiema est en santé numérique et analyse des mégadonnées. Alors, les personnes en situation de handicap constituent 16 % de la population mondiale et 27 % de la population canadienne. Mais malgré ce poids démographique non négligeable, la question se pose de savoir si les personnes en situation de handicap sont systématiquement incluses dans les réflexions concernant les avancées technologiques des applications d'IA, soit de l'intelligence artificielle, en lien avec le handicap. Alors, professeur en santé mondiale de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, la spécialité de la professeure Maxeing concerne les enjeux d'équité et d'inclusion des personnes en situation de handicap en matière de santé. Alors, en échangeant avec son collègue Jean-Noël Nikiema, ils se sont interrogés sur les interactions entre le handicap et l'intelligence artificielle. Les deux chercheurs ont mené un bilan des connaissances scientifiques sur le sujet pour synthétiser la littérature existante et identifier les lacunes quant à l'intersection entre les applications en IA et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ils ont également interviewé 16 personnes, dont des experts en IA et des personnes en situation de handicap entendantes et malentendantes. Le but, c'était de mieux comprendre leur perspective en tant que concepteur d'applications en IA d'une part et à titre d'utilisateur en situation de handicap d'autre part. En plus, lors d'un webinaire de restitution des données, ils ont aussi recueilli les retours d'une quarantaine de personnes provenant des secteurs académiques, de la recherche et d'organisations de personnes en situation de handicap pour identifier des priorités de recherche. Les résultats de leur étude l'ont révélé trois éléments. Premièrement, sur les 84 recherches incluses dans la revue qu'ils ont effectuées, ils ont réalisé, concernant l'intersection entre les applications en IA, la recherche et le développement en santé et les personnes en situation de handicap, que la majorité des recherches ont été menées en Amérique du Nord, principalement aux États-Unis, au Canada aussi. En Europe, c'était en Grande-Bretagne et en France. Et finalement, en Asie, c'était en Chine et en Inde. Peu d'études sur ces trois concepts ont été menées ailleurs dans le monde, notamment en Amérique du Sud et en Afrique, alors que 80 % des personnes en situation de handicap résident dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Lorsque les personnes en situation de handicap étaient étudiées, les personnes avec une incapacité motrice et cognitive étaient aussi largement représentées, en plus dans un contexte clinique ou hospitalier, donc pas dans la vie de tous les jours. La plupart de ces études étaient donc intéressées à prédire des problèmes de santé ou de diagnostics médicaux. Une minorité d'entre elles était intéressée aux réalités des personnes déjà en situation de handicap, notamment à celles qui vivent chez elles, à domicile et non dans des structures sanitaires. Deuxièmement, les entretiens avec les experts et les personnes en situation de handicap en santé ont mis en exergue le manque de reconnaissance et de connaissance des experts en IA concernant les besoins des personnes en situation de handicap. Les résultats de l'analyse de nos deux chercheurs tendent à montrer que les experts en IA sont intéressés à mieux connaître les besoins des personnes en situation de handicap. L'inverse est aussi vrai. Les personnes en situation de handicap souhaitent mieux faire connaître leurs besoins auprès des experts en IA. Malgré cette ouverture, les secteurs de l'IA et du handicap collaborent peu, voire pas du tout. Le travail en silo semble prévaloir. De leur côté, les chercheurs sont nombreux à se demander s'il est vraiment pertinent de considérer le handicap en tant que dimension de biais systématique. La pensée dominante opère plutôt le raisonnement suivant. Si un outil est développé de manière suffisamment responsable, ben, il servira à tout le monde et donc, par ricochet, aux personnes en situation de handicap.
Et oui, l'inclusion.
Oui, c'est une façon de voir l'inclusion. Le troisième constat est toutefois sans appel. Les personnes en situation de handicap qui utilisent des applications en IA pour trouver leur chemin, par exemple, ou entendre ce qui se passe dans leur environnement, par exemple sur un téléphone, une montre intelligente ou un ordinateur, ont toutes mentionné le manque d'accessibilité des interfaces d'IA qui ne sont pas adaptées à leurs besoins.
Ah, il n'y a pas d'inclusion.
Ben voilà, le principal enjeu de l'IA pour les personnes malvoyantes, par exemple, ce n'est pas tant l'IA elle-même, ce sont les interfaces. Parce que même s'il existe des synthèses vocales dans les applications, pour les activer, il faudrait les voir. Mentionne, entre autres, un participant en situation de handicap visuel d'un des groupes de discussion. S'ajoute à ce constat de multiples barrières financières et linguistiques dans l'utilisation des applications IA. Plusieurs personnes en situation de handicap ont mentionné ne pas pouvoir se permettre d'acheter un appareil intelligent et en profiter, et ainsi profiter des avantages technologiques proposés par l'IA. D'autres personnes en situation de handicap ont indiqué que les applications d'IA ne sont pas encore aptes à reconnaître l'accent québécois. Alors, que faire pour une IA plus inclusive et équitable? Ben, voici des recommandations des personnes participantes à l'étude pour améliorer une utilisation plus équitable des applications IA pour les personnes en situation de handicap. Premièrement, inclure proactivement les personnes avec différents types de handicap dès la conception, c'est-à-dire du développement au déploiement et jusqu'à l'évaluation des applications IA, tant en matière de recherche qu'au niveau de la mise en œuvre des produits. C'est une question éthique. Deuxièmement, améliorer l'accessibilité des interfaces et des applications IA pour les personnes avec différents types de handicap. C'est une question pragmatique et axée sur l'équité. Troisièmement, recruter des personnes en situation de handicap au sein des équipes de recherche et de mise en œuvre des applications et produits IA, c'est une question de diversité et d'inclusion.
Et oui.
Quatrièmement et finalement, augmenter les incitatifs pour collaborer de façon intersectorielle et interdisciplinaire entre les secteurs de l'IA et du handicap, c'est une question de responsabilité pour un développement durable. Alors, à la lumière de ces résultats, nos deux chercheurs nous disent qu'on a un signal fort, qu'il est temps non seulement de mieux examiner l'intersection entre l'IA et le handicap, mais que les acteurs du terrain, tant les experts en IA que les personnes en situation de handicap elles-mêmes, sont prêts à collaborer plus étroitement pour une IA plus inclusive et équitable. Donc, fini les situations en îlot.
Alors, voilà. Bravo! Alors, pour les personnes en situation de handicap, dans ce texte, on avait un acronyme que vous n'avez pas utilisé, PSH. C'est vrai que ça, ça déshumanise un peu, hein, la personne
oui.
en situation de handicap.
C'était peut-être un peu plus long de prononcer à chaque fois « personne en situation de handicap », mais je trouvais que c'était plus humain.
Oui, tout à fait. Et ça répond peut-être à la question d'Yvan qui se demandait, l'œuf ou la poule, est-ce que l'acronyme vient avant ou après le groupe de mots? Ici, l'acronyme est venu définitivement.
Oui,
après.
Définitivement et très maladroitement.
Ouais. Bien, en tout cas, vous n'avez pas été maladroite, vous, Monique, et c'est un texte vraiment intéressant. Encore une fois, handicap et intelligence artificielle se nourrissent-ils mutuellement? Rappelez-nous le nom des auteurs. C'est pas un piège que je vous tends, là, mais...
Avec plaisir. Alors, c'est Muriel Mac-Seigne et Jean-Noël Nikiema.
Parfait. Texte qu'on trouve dans la conversation ou The Conversation. Merci.
Merci.